L'écho de Pâques, une émission spéciale pour vivre un accompagnement spirituel chez soi en temps de confinement.
Très heureux de vous retrouver, chers auditeurs, en ce mercredi pour cette émission L'écho de Pâques. Cette semaine, pour rappel, nous sommes avec le frère Jean-Emmanuel de Hénin. Bonjour frère.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes confiné, je suis confiné, mais nous dialoguons, c'est l'avantage aussi, d'une certaine manière, on se rend compte que ça peut créer une autre forme d'intimité au long de ces exercices, ça oblige en tout cas à mieux s'écouter. Vous êtes, pour rappel, donc religieux carme, prêtre, professeur de théologie à l'Institut catholique de Toulouse, entre autres donc à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales, et au sein de la faculté de théologie, et directeur de l'Institut de spiritualité Jean de la Croix, qui est donc aussi un religieux carme, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et docteur de l'Église, non ?
Docteur de l'Église, et surtout on retient de lui que c'est un mystique,
voilà,
c'est-à-dire quelqu'un qui est rentré dans le mystère de Dieu.
Mystique, et espagnol aussi, hein.
Espagnol, oui, il ne faut pas oublier. Castillan même.
Castillan. Alors aujourd'hui, donc, on va parler de la prière de la part d'un religieux. Ça ne surprendra personne, mais le propos, c'est surtout de nous parler de la prière un peu à la première personne du singulier, et puis de nous laisser entrevoir, en fait, quelle est votre vie de prière, ce que vous comprenez aussi de ces difficultés. Si on commence par le début, depuis quand, hier, vous nous avez très généreusement partagé que Jésus était devenu quelqu'un dès votre plus jeune enfance, autour de l'âge de la raison, en tout cas. Vous vouliez aujourd'hui nous parler, d'une autre étape où la prière a pris une autre forme, qui est celle de la parole de Dieu. Expliquez-nous.
Oui, je voulais donc, effectivement, hier je vous parlais de la petite enfance, si vous voulez, l'enfance, où Jésus est un ami avec qui j'ai été et je suis toujours en dialogue permanent. Mais il y a une autre étape, effectivement, à l'époque de l'adolescence, je dirais vers l'âge de 16 ans, où bien sûr on a un esprit critique. Moi j'ai été en plus éduqué à la laïque, hein, au lycée français de Madrid. Donc on apprend l'esprit critique, on apprend à faire des dissertations. Je ne renie pas ma formation. Elle m'a obligé bien sûr à questionner mon rapport un peu naïf à Dieu, à ma foi. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai eu l'immense chance de participer à un groupe biblique, un groupe de lecture biblique, avec un livre merveilleux que je recommande à tous mes étudiants, et donc du coup je recommande aussi aux auditeurs aujourd'hui, un livre qui est régulièrement réédité parce qu'il est régulièrement épuisé, Dieu et son image. Dieu et E.T. son image. Donc, de Dominique Barthélémy, un dominicain, qui fait un peu une théologie biblique, qui essaye d'expliquer qu'est-ce que c'est l'image de Dieu dans la parole de Dieu. Or, ce livre nous a servi, dans ce groupe biblique, comme support pour découvrir la parole de Dieu. Et là, j'ai fait des découvertes extraordinaires, en particulier dans l'Ancien Testament ou le Premier Testament, je préfère l'appeler comme ça, par rapport au Nouveau Testament. Donc des textes qui peuvent sembler très très obscurs, très lointains de notre vie quotidienne, et j'ai découvert qu'en fait, il parle de nous, il parlait de mes questions sur la création, il parlait, surtout quand on est adolescent, la relation entre les hommes et les femmes, mâle et femelle, il les créa, son image, il les créa, il parlait de la question du mal, d'où vient le mal, l'origine du mal, il parlait de la jalousie, enfin vous voyez des choses que nous connaissons tous, qui sont notre quotidien, sauf que là, c'est éclairé par la parole de Dieu, en découvrant des textes vivants. Et donc là, j'ai vraiment, il y a une évolution, je dirais, peut-être une plus grande maturité dans ma vie de prière, parce que du coup, ma vie de prière a été nourrie par une parole, par la parole de Dieu, par la Bible, d'où est venu bien sûr mon amour de la parole de Dieu, qui s'est ensuite traduit par le fait d'être devenu un bibliste, enfin quelqu'un qui essaie de vivre cette parole de Dieu et qui essaie de la transmettre.
Alors la parole de Dieu, on peut aussi dire à cette occasion, hein, que, puisque c'est peu connu, que désormais il y a un dimanche de la parole de Dieu, le troisième dimanche du temps ordinaire. J'imagine que vous en réjouissez, hein, c'était décidé par le pape François. J'ai trouvé cette citation, afin que le peuple vive un rapport décisif à la parole vivante que le Seigneur ne se lasse jamais d'adresser à son épouse. Je pense que vous ne lui avez pas suggéré, mais s'il avait fait une pétition, vous l'auriez signée, non ?
Absolument, si pétition il y avait eu. C'était d'ailleurs suite à un synode qui avait parlé sur la parole de Dieu et le rôle de la parole de Dieu dans la vie de l'Église. Donc effectivement, j'ai souscrit à 300%, bien entendu, parce que je crois que c'est l'une des grandes chances du Concile Vatican II. Vous savez, parfois, certains catholiques sont parfois un petit peu nostalgiques ou comprennent pas très bien le Concile Vatican II. Ben, l'une des grands apports du Concile Vatican II, c'est d'avoir redonné un accès vivant à la parole de Dieu. Et on le voit en ce moment dans le confinement, combien de gens autour de nous disent « je suis la messe du pape le matin, par exemple, et je redécouvre la parole de Dieu, je prends le temps de la lire chaque jour ». Donc oui, effectivement, c'est une grande, grande chance, et évidemment, ça devient, la vie de prière est beaucoup plus mûre, beaucoup plus féconde lorsqu'elle est nourrie par cette parole de Dieu.
Alors, frère Jean-Emmanuel de Hénin, on va d'une certaine manière un peu sauter un pas ou en faire deux questions en une. Vous l'avez dit, donc vous êtes religieux carme. La particularité donc du Carmel, c'est de faire place au silence, en tout cas à la prière d'oraison. Donc, vous nous avez dit, je crois que c'était lors de la première émission lundi dernier, que c'était 2 heures par jour pour vous. L'oraison, on en a parlé un petit peu avec Claire Bressolette aussi la semaine dernière. Alors, tout le monde n'est pas assidu à chaque émission, mais bon, c'est une prière silencieuse. On se tient en présence de quelqu'un que l'on sait vivant. Et vous, au cœur de cette prière, vous ferez 2 en 1, mais pour vous, ça ne sera pas une difficulté. Veuillez d'abord insister sur le combat et prendre une image tirée des Écritures, justement, du livre de la Genèse, celui du combat de Jacob. Alors, dites-nous pourquoi la prière, en dehors du fait de rester 2 heures en silence, ça serait pour beaucoup d'entre nous bien difficile, la prière est, selon vous, d'abord un combat.
Oui, alors écoutez, pour vous parler de ça, je citerai d'abord les pères du désert. Vous savez, ces fameux moines qui étaient au fond du désert et qui sont les premiers moines, hein, dans le désert d'Égypte. Et on interrogeait un de ces anciens moines et on justement sur la prière, ce que vous êtes en train de faire maintenant, sauf qu'il n'y avait pas de radio à l'époque. Et donc le vieux moine disait, ben il y a des jours où je vais à la prière en dansant, comme à la danse, et il y a des jours où je vais à la prière comme au combat. Mais c'est exactement ça, la prière silencieuse. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on est entraîné à la prière, on a le désir de prier, on jubile, on chante, on loue Dieu, parce qu'on a reçu ses bienfaits, parce qu'on découvre la beauté de la création, la beauté de l'œuvre de Dieu en nous, de son salut, voilà. Et puis il y a d'autres jours, au contraire, c'est un combat extrêmement dur, et d'abord un combat contre nous-mêmes, mais parfois aussi contre les petits démons, ou même les grands démons, c'est un combat contre nos idéologies, contre notre orgueil, contre notre lâcheté, contre notre inconsistance. Et effectivement, ce combat-là est très bien dit dans un texte très mystérieux de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 32. Le fameux combat de Jacob, dont vous avez une magnifique représentation dans l'église Saint-Sulpice, si jamais, par de la croix. Et ce texte, alors je n'ai certainement pas le temps de vous le lire en entier, hein, mais Jacob reste seul et quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Donc un combat de nuit, toute la nuit. Et Jacob frappe, hein, il est frappé et il frappe la hanche et il devient boiteux, hein. Et puis, le personnage mystérieux avec lequel il a combattu lui demande de le lâcher. Mais Jacob répondit, « Je ne te lâcherai pas, que tu ne m'aies béni. » Ah, il arrache, autrement dit, une bénédiction. Il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Jacob, répondit-il. » Il reprit, « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as été fort contre Dieu et contre les hommes, et tu l'as emporté. » Ah, ça, alors, c'est très étonnant. Ce combat, alors je ne sais pas si vous avez bien saisi le sens, sinon je vous renvoie à Genèse 32, vous pouvez le relire tranquillement, les versets 23 à 33. C'est pas beaucoup, c'est pas très long.
En tout cas, vous l'y insistez sur
la prière, c'est, voilà, contre Dieu, c'est-à-dire tout contre. Et découvrir, et on n'en sort pas indemne, c'est ça que ça veut dire ce texte, on n'en sort pas indemne, on est marqué au fer rouge. Et la prière d'oraison, la prière silencieuse, c'est ce combat intérieur contre nous-mêmes, contre nos distractions, contre nos fausses idées de Dieu, jusqu'à être marqué, jusqu'à en changer de nom. C'est ça qui est incroyable. Hein, il était Jacob et il devient Israël. Et ben, il faudrait que la prière puisse nous transformer au point de changer notre être profond, pour évidemment changer en meilleur, pas en pire, hein, mais être transformé, transfiguré, c'est en fait ça le sens profond de la prière.
Est-ce à dire que c'est à ce prix-là aussi que, d'une certaine manière, on peut voir Dieu? J'ai cru aussi, enfin, j'ai, dans ce passage que vous avez cité, il me semble qu'il y en a un autre, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. La finalité de la prière, c'est non pas de saisir Dieu comme on saisit l'ange, mais enfin c'est de participer à sa vie. C'est à ce prix-là, en fait, on ne peut pas échapper à ce combat, frère Jean-Emmanuel de Hénin.
Non seulement on ne peut pas échapper, mais l'allusion à laquelle vous faites, c'est le verset 31. Hein. Jacob donna à cet endroit le nom de Penuel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. D'accord ? Donc, l'idée, c'est que dans tout l'Ancien Testament, on dit, on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Dieu est Dieu, et pour ma nature humaine, je suis trop fragile face à Dieu. Donc, je ne peux que mourir. Or, la question, toute la vie spirituelle, tous les saints du Carmel, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, mais aussi les autres disent, il faut mourir pour vivre. Jésus lui-même le dit, il faut perdre sa vie pour la gagner. La prière, c'est ça. C'est mourir à des fausses réalités en nous pour revivre, c'est-à-dire ressusciter, en ce temps de Pâques, c'est exactement ça que nous sommes invités à vivre, pour ressusciter avec le Christ, c'est-à-dire à notre véritable identité. Notre véritable identité, c'est pas d'être des individus anonymes, c'est d'être des fils et des filles de Dieu. Et c'est ça le grand mystère de la prière qui nous transfigure.
Eh ben merci, frère Jean-Emmanuel de Hénin, de ces confidences et de cet éclairage sur la prière. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, nous allons parler de la pandémie du coronavirus qui dure, et pas seulement ce confinement. On sent quand même les traces douloureuses et profondes. On le sent et on le lit. Hein. Et puis pour certains, c'est du réel et c'est même parfois dans leur chair ou dans leurs proches. On en parlera demain de ce versant dramatique de cette pandémie. À demain.
Merci Emmanuel, à demain.